Un moment pour la Terre avec France Nature Environnement. Bonjour, Pierre Gotardi et André Silva de France Nature Environnement. Et vous allez donc nous parler des ressources en eau.
Alors, avant de parler de la sécheresse, on va parler de la ressource en eau déjà à l'échelle de la région. Et après, on fera un petit zoom sur le département des Alpes-de-Provence. La région PACA est couverte par deux bassins versants essentiellement. Donc la Durance est là, et le Var. Donc on va se focaliser sur la Durance, qui est le bassin qui nous intéresse dans les Alpes-de-Provence. Donc depuis très longtemps, l'eau de la Durance est utilisée à l'échelle de l'ensemble du territoire. Quand je dis Durance, c'est Durance et affluent, hein, à travers des canaux. On a des canaux qui remontent au 15e, 14e siècle, y compris dans le département. Et donc cet usage de l'eau historique a permis le développement d'agriculture et d'activités industrielles, donc les moulins, etc. Donc les moulins à drap, enfin tout ce qui concernait l'industrie au 19e siècle. Donc dans les années 40 puis 50, donc l'État a imaginé une chaîne hydroélectrique sur la Durance et sur le Verdon qui permettait de mobiliser des gros débits sur une chute importante et donc de générer ce qui ressemble à peu près à l'équivalent d'une unité nucléaire en 10 minutes. Donc cet aménagement part du barrage de Serponçon, donc où on a un réservoir tampon, on va dire, hein, qui permet de stocker de l'eau et de la relâcher après sous forme de débit, soit pour turbiner, soit pour des autres usages qui ont été intégrés dans l'aménagement. Et puis au fil de la Durance, on a une succession de prises qui permettent d'intégrer, de faire rentrer dans l'aménagement hydroélectrique tous les affluents, hein, le Bêche, le Vençon, le Sas, la Bléone, l'As, etc. Jusqu'en bas. Et donc la conception de cet aménagement, c'est un aménagement multi-usage, puisque d'entrée, le législateur et donc après l'aménageur qui était l'État à travers EDF, était d'intégrer l'usage agricole dans l'aménagement, dans la mesure où à l'aval de Cadarache, donc à l'aval de la confluence Verdon-Durance, on avait des très gros canaux qui alimentent donc toute la basse vallée de la Durance, c'est-à-dire encore en rive droite le Vaucluse jusqu'à Avignon et en rive gauche donc les Bouches-du-Rhône avec notamment le canal de Marseille. Donc c'était des très gros consommateurs d'eau et la basse Provence, entre guillemets, hein, le basse, n'aurait pas pu vivre s'il n'y avait pas eu les canaux d'Adurance et de se développer comme ils sont développés. En parallèle de cet aménagement donc sur l'Adurance, a été mis en place aussi l'aménagement sur le Verdon qui a permis de créer la retenue notamment de Sainte-Croix, je ne parle pas des autres mais elles existent aussi, et en même temps donc l'aménagement du canal de Provence dans les années 70 qui ont permis d'alimenter la côte d'Azur, entre Toulon et Cannes, avec de l'eau du Verdon. Et donc, ce transfert d'eau à l'extérieur des bassins versants, ça a permis de faire vivre toute la partie sud du département du Var. Il faut savoir que dès le début du 19e, le département du Var a essayé d'acheter des sources dans le Verdon pour pouvoir alimenter les villes les plus éloignées, et notamment Toulon, à travers des canaux qui ont plus ou moins vu le jour. Donc le problème a été réglé avec le canal de Provence. Voilà. Alors c'est vrai que les massifs alpins, donc tout le Briançonnais et puis les massifs du Haut-Verdon, et de la Haute-Ubaye, représentaient un capital, j'allais dire, de disponible à travers la neige et les glaciers qui étaient donc ici, et qui permettaient d'avoir des débits estivaux très intéressants avec la fonte des neiges et puis après la fonte des glaciers. Voilà. Donc tout ce système a largement fonctionné et largement contribué à développer tout un tas d'usages autour de la Durance, donc au-delà de l'usage hydroélectrique. Il y a notamment l'usage agricole et en accompagnement, je dirais, des travaux d'aménagement par EDF, l'État avait prévu de laisser des débits pour alimenter des réseaux d'irrigation et notamment dans le département, on a des réseaux qui prennent l'eau directement dans la Durance et qui permettent notamment, je pense à toute la plaine des Mets, ils sont tous alimentés maintenant par le canal avec des réseaux sous pression. C'est vrai que l'avantage des réseaux sous pression, c'est qu'on fait beaucoup d'économies par rapport aux réseaux gravitaires qui quadrillaient en fait l'ensemble du département des Alpes-de-Provence. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, on avait plus de 1000 canaux qui parcouraient le territoire du département. Aujourd'hui, il doit y en rester 200 ou peut-être 250. Voilà. Des petits et des très gros. Voilà. Donc, Cet aménagement a permis donc un développement économique, un développement agricole important, mais il est quand même directement tributaire des ressources disponibles en amont, puisque, comment dire, on a vu apparaître au fil du temps aussi, et c'est pour ça que les gens avaient fait des canaux, on a vu aussi apparaître de l'agriculture dans les hauts bassins, qui ont pris la succession de ce qui se passait au 18e, au 19e. Et donc là aussi, on a une agriculture qui est en partie dépendante de la ressource en eau. Sauf que les bassins, comme le sommet de la Bléone, ou le sommet de l'As, ou le sommet du Largue, eux ne sont pas réalimentés par la Durance. Et donc, du coup, ils sont beaucoup plus sensibles à l'étiage et à la sécheresse. Et on pensait que ces phénomènes qui étaient sur des bassins limités ne toucheraient pas la Durance. Bon. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que, l'évolution climatique fait que, les précipitations ont diminué. Donc, en fait, en 60 ans, on a déjà perdu 30 à 40, peut-être 50 mm d'eau dans le département sous forme de pluie. Et donc, on a moins d'eau dans les cours d'eau. Or, l'usage, il n'a pas changé, voire il s'est renforcé dans certains cas. Et d'autre part, on s'aperçoit, et donc l'année 2022 a été un peu le révélateur de ça, qu'on n'est plus aussi sûr de la réserve de la haute Durance, qui est constituée par les glaciers et la neige. On n'est plus aussi sûr de sa pérennité. Voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé en 2022, où tout d'un coup, on n'a plus de pluie, on a eu beaucoup moins de neige. Les glaciers, il faut savoir que les glaciers dans le massif du Briançonnais sont en train de vivre leurs dernières années, puisqu'on estime qu'en 2035, il n'y en aura plus. Et donc, en fait, toute cette eau qui arrive à l'été, elle n'est pas arrivée en 2022. Et à l'identité, je dirais, avec un peu une symétrie sur les bassins intermédiaires où il y a moins de neige. Par exemple, sur le bassin de l'As, on n'a pratiquement plus de neige l'hiver. Et donc, on est uniquement dépendant des pluies quand elles arrivent. Et du coup, ça change totalement la donne au niveau de la gestion hydraulique, puisque quand on pouvait compter sur des débits de fonte au mois de mai, au mois de juin, donc pour permettre des arrosages quand les cultures commencent à démarrer, eh bien aujourd'hui, s'il n'y a pas eu de neige, les débits ne sont pas ce qu'on attend. Et si la pluie ne vient pas comme cette année, on est très mal. Quoi. Voilà. Et donc ça, c'est le gros problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des aménagements qui sont de plus en plus dépendants de la ressource en eau. On a une population très importante au niveau régional. Je pense aux grosses villes de la côte qui sont directement dépendantes de cette ressource Durance. Et on a eu jusqu'à maintenant des usages plutôt pas très soucieux de la quantité, j'allais dire. C'est pas une critique, c'est comme ça. Il y a encore quelques années, à Marseille, on poussait les ordures avec des jets d'eau dans les fossés. Voilà. Donc, c'est un état de fait. On n'est pas là pour critiquer qui que ce soit. C'est un état de fait comme ça. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on est face à une diminution de la ressource et on est face à des besoins qui sont, toujours en augmentation, même si tout le monde fait des économies. Enfin, je pense à l'agriculture qui a fait beaucoup d'économies en passant au microjet, au goutte à goutte, etc. Il n'empêche qu'on produit toujours plus et donc on a toujours besoin de plus d'eau, quoi. Et du coup, le système aujourd'hui, il est en limite. C'est-à-dire qu'on est face maintenant à une situation où il faut qu'effectivement on réfléchisse de nouveau à comment on répartit cette eau. Donc le code de l'environnement permet de hiérarchiser les usages. Le premier usage, c'est l'eau potable et l'eau sanitaire. Le deuxième usage, c'est l'eau pour l'environnement, c'est-à-dire ce qu'on appelle les débits réservés pour l'environnement. Et après, d'ailleurs, on a les autres usages. Mais dans les autres usages, il y a des usages économiques qui sont très importants, puis il y a des autres usages qui sont peut-être moins importants. C'est-à-dire, laver sa voiture, c'est peut-être moins important que produire à manger pour la population provençale, voire au-delà. Voilà. Dans le moment où on est là aujourd'hui, on a affaire à deux phénomènes qui se tamponnent un petit peu, qui se complètent. C'est-à-dire qu'on a une tendance de fond qui est le changement climatique et une augmentation des températures, et donc on sait qu'on va encore perdre un petit peu de pluie sur la région. Et avec l'augmentation des températures, l'évapotranspiration des plantes augmente, donc on a besoin pour les cultures peut-être de faire plus attention à l'eau, d'en mettre un peu plus. Et de l'autre côté, on a des sécheresses qui arrivent puisqu'on a une irrégularité des pluies qui se produit. Et ça, c'est aussi un effet du changement climatique. Et donc les perturbations ne sont pas aussi régulières qu'avant. Dans le département des Alpes-de-Provence, avant, le mois de mai, c'était un mois qui a été considéré comme pluvieux. Le mois d'octobre, novembre, c'était un mois où il y avait des précipitations. Cette année, on a vu un peu de précipitations au mois de novembre. En octobre, il n'y en a pas eu. En décembre, il n'y en a pas eu non plus. Donc ce dérèglement, je dirais, des précipitations vient se cumuler avec la tendance de fond. Et donc, du coup, et là, je vais faire la transition avec l'exposé suivant. On a donc deux types de réponses à penser. C'est-à-dire qu'il faut répondre à des crises conjoncturelles. C'est-à-dire qu'une année, il n'y a pas de pluie. même si elles sont en réduction, si on n'a pas la dose de pluie moyenne, je dirais, mais comment on réagit? Et puis derrière, comment dire, on a la tendance de fond et comment on peut s'adapter au changement climatique. Et donc là, c'est deux choses qui sont complémentaires, mais qui sont un petit peu différentes, avec une approche très pragmatique pour la sécheresse et de l'autre côté, une approche beaucoup plus systémique sur la mise en place de mesures de fond pour arriver à s'adapter, puisque bon, on est là. Et comment dire, quand on voit comment les communes, par exemple, qui continuent à vouloir augmenter les populations dans tous les sens, il y a un moment donné où on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ce qui s'est passé cette année suite à l'événement, enfin, à la sécheresse de 2022, où la communauté de communes de Fayence a décidé de bloquer les permis de construire pendant 5 ans. Ça s'est jamais vu au niveau régional. Et ça a fait un tollé général au niveau de la Fédération du bâtiment, etc. Mais le maire, il ne sait pas comment faire. L'année passée, ils ont limité l'eau à 150 litres par personne par jour parce qu'ils n'avaient plus d'eau. Donc il y a un moment donné où on doit se dire, bah oui, on n'en a pas assez, il faut qu'on arrête, quoi. Et c'est très compliqué de faire comprendre ça dans la population, quoi.
Et oui, parce qu'on n'a pas encore trouvé comment fabriquer de l'eau. Et c'est bien ça le problème.
Ben, tant qu'on ne l'a pas en poudre, on ne sait pas faire.
Voilà, on fait une pause.
On peut faire une petite pause.
Allez, alors on va écouter Earth de Lil Dicky.
What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And I just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say.
We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home.
Hi, I'm a baboon. Just less advanced, the minus is huge.
Hey, I'm a zebra. No one knows what I do, but I look pretty cool in my white or black.
I'm a lion cub, and I'm always getting licked.
Meow. How's it going? I'm a cow. Mm. You drink milk from my tits. Mm. I'm a fat fucking pig.
I'm a common fungus.
I'm a disgruntled skunk, shoot you out my butt.
Marijuana plant, I can get you fucked up.
And I'm Kanye West.
We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. We love the earth.
Ba-dum, ba-dum, bum, ba-dum, buddy. We are the vultures, feed on the dead.
Just some rhinos, horny as heck.
I'm just a giraffe, what's with this neck?
Yeah. Hippity hop, I'm a kangaroo. How about there, up and down with you?
I'm an elephant, I got junk in my trunk.
What the fuck, I'm a clown?
I'm a wolf.
I'm a squirrel looking for my next nut.
And I'm a pony, just a freak horse.
Yeah, but,
come on, get on.
Yeah,
giddy up, let's ride.
I'm HPV.
Sleep all the time, so what? It's cute.
We love you, India.
We love you, Africa.
We love the Chinese.
We forgive you, Germany.
Earth, it is our planet.
We love the earth.
We love the earth.
It is our home.
We love the earth.
It is our planet.
We love the earth.
It is our home.
We love the earth.
I'm a man. Trudge the earth for so damn long and still don't know shit. I hope it's not a simulation. Give each other names like Ahmed and Pedro. And yeah, we like to wear clothes. Girls still look beautiful and it covers up our human dick. Eat a lot of tuna fish, but these days it's like we don't know how to act. All these shootings, pollution, we under attack on ourselves. Like, let's all just chill, respect what we built. Like, look at the internet, it's cracking as hell. Fellas, don't you let it come when you have sex. And I heard women orgasms are better than a dick's. So what we got is land for, what we gotta stand for.
Love.
And we love the
chicos harangueo.
Amamos la tierra.
Woman, epicho.
Come on, everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same Earth.
Have you ever been to Earth?
Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here.
Are we gonna die?
You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid.
Unless we get our shit together now.
Guys, everybody look into whatever the fuck Leonardo DiCaprio is always pushing, because I feel like that guy knows more about the Earth and how we're fucking it up than anybody. Like, if the aliens did come, we should definitely send Leo as our guy, our rep. In fact, the profits that come along with the streams and the sale of this song are going right into the Earth. Let's raise some money for charity. Any words, Leo?
This might be my favorite song ever.
Voilà, retour pour Un Moment de la Terre avec Pierre Gottardi et André Silva.
Alors, on va reprendre sur la gestion donc des épisodes, je dirais, de pénurie. Donc, on distingue bien la gestion en période de, j'allais dire, de crise conjoncturelle, c'est-à-dire une année où il n'y a pas suffisamment de précipitations, de neige ou de pluie dans l'année, et donc qui génère une sécheresse, je dirais, un petit peu exceptionnelle. Et puis, la tendance de fond, qui est le changement climatique. Ça, c'est André qui en parlera après. Donc, dans le département, depuis 15 ans, même plus, donc on a un plan d'action sécheresse. Alors, le plan d'action sécheresse, c'est donc la mise en place d'un réseau de surveillance de tous les bassins versants du département. Hein, donc, Sas, Vençon, Bléone, Asse, et de l'autre côté, Largue, Lauzon, Jabron, et puis la Durance elle-même, puisque depuis 2022, on a aussi des actions sur la Durance. Et donc, on a bâti, enfin, le plan d'action sécheresse a été bâti à partir d'observations de terrain, c'est-à-dire que les services de l'État vont vérifier un certain nombre de points, de mesures qui sont représentatifs de l'état du bassin versant. Donc, sur 8 points, qui ne sont pas instrumentés et où les gens vont faire des mesures toutes les semaines, hein, avec un système de moulinet pour mesurer les débits. Et puis, sur d'autres points, comme sur le bassin du Var à Entrevaux, ou l'Ubaye à Barcelonnette, et le Haut-Verdon juste à la Mont-Saint-André-les-Alpes, on a des stations de jaugeage qui sont exploitées par l'État ou par EDF, sur lesquelles on peut avoir les données. Voilà. Donc, à partir des débits mesurés et puis donc des débits caractéristiques qu'on a pu estimer sur les rivières, il y a des seuils de déclenchement qui permettent de voir où c'est qu'on en est par rapport à un état de sécheresse. Voilà. Donc, ces seuils déclenchent plusieurs stades. Donc, on a un premier stade qui est la vigilance, où on fait de l'information sur le bassin versant, et puis le stade d'alerte renforcée et crise, où là, on a des mesures d'économie qui sont demandées par le préfet à travers des actes administratifs. Voilà. Donc, on a donc dans le département un comité qui s'appelle le comité de gestion collégiale de l'eau, donc qui a été instauré en 2012, je crois, ou 2013, et qui permet, qui rassemble l'ensemble des acteurs autour de l'eau, donc les services de l'État pour ce qui est toute la police au sens administratif, les consommateurs à travers les agriculteurs, les sociétés de distribution d'eau, les collectivités qui ont donc des régies d'eau potable, et puis donc des élus, du conseil départemental, voire du conseil régional, et puis, les observateurs, j'adhérais, à l'échelle régionale, puisqu'on a souvent l'ADREAL qui participe ou l'agence de l'eau, qui viennent voir ce qui se passe un petit peu dans le département. Voilà. Donc, ce comité suit, à travers un service technique qui est la direction départementale des territoires, suit l'évolution de la ressource, des débits dans les cours d'eau. Et à partir de là, lors des réunions, sont décidés s'il faut déclencher ou non les paramètres de vigilance ou de restriction. Alors, l'ensemble des usages ont été listés dans l'arrêté préfectoral qui encadre ça. De façon à ce qu'on n'oublie personne. C'est-à-dire qu'on traite aussi bien l'arrosage des jardins que l'arrosage de l'agriculture, que l'usage hydroélectrique avec EDF, sur lequel on peut demander dans certains cas des modulations, ou bien, les consommations individuelles. Voilà. Donc, cet ensemble de dispositifs, c'est ce qu'on appelle le plan d'action sécheresse, fait l'objet d'un arrêté cadre départemental qui définit tout ça, qui met en place la commission, qui définit la conception, les paramètres de déclenchement et les mesures d'économie. Voilà. Alors, les mesures d'économie, elles sont basées sur des taux de réduction, c'est-à-dire on dit au stade d'alerte, par exemple, vous allez diminuer de 20% les consommations que vous aviez prévues sur, à partir de maintenant. Donc, il faut savoir que les agriculteurs, comment dire, souvent, ils ont des plans, enfin, ils font un programme de culture pour l'année, et pour chaque culture, ils savent quand c'est qu'ils doivent mettre l'eau. Si on met un sorgho fourrager, par exemple, on va pas l'arroser de la même manière que si on met un maïs ou si on met du tournesol. Voilà. Le tournesol, comment vient à fleur au mois de juin, début juillet, et donc du coup, il a besoin d'eau plus au mois de mai-juin, alors que le maïs, il va avoir besoin d'eau juin, juillet, août, et des fois début septembre, suivant la maturité. Voilà. Ou les pommiers, par exemple, c'est pareil, ils ont une durée de croissance plus longue, donc il leur faut de l'eau en quantité moindre, mais très régulièrement répartie sur la saison, y compris jusqu'au mois de septembre. Voilà. Donc tout ça, comment dire, c'est des données que les agriculteurs ont, et donc ils savent que si on met la crise à partir, je dis n'importe quoi, du 15 juillet, ils savent qu'à partir du 15 juillet, le volume qu'ils devaient mettre entre le 15 et le 30 juillet, il faut qu'ils le diminuent de 20%. Quand on arrive au stade d'alerte renforcée, c'est 40%. Donc ça veut dire qu'il faut diminuer quasiment de moitié ce qu'on a prévu. Et quand on arrive en crise, théoriquement, on suspend les arrosages, l'irrigation. Donc c'est des mesures qui sont... Enfin, la mesure de crise, c'est une mesure qui est assez violente et qui peut bénéficier de dérogations, c'est-à-dire que pour des productions agricoles, mais ça peut être pour d'autres usages, hein, là je parle agriculture parce que c'est plus facile, pour d'autres usages essentiels, comment dire, on peut avoir des dérogations, le préfet peut dire, bon, écoutez, effectivement, on a eu ça, le préfet avait accepté il y a quelques années, pour les semis d'automne. Les semis d'automne qui se font au mois de septembre ou début octobre, s'il ne pleut pas au mois de septembre ou d'octobre, s'il n'y a pas plu pendant l'été, c'est pas peine de mettre les graines en terre. C'est comme ça, on ne dit rien. Donc dans certains cas, pour pouvoir sauver des récoltes, etc., on a autorisé ponctuellement des arrosages pour permettre la germination et le démarrage des cultures. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué parce que ça met en... Je dirais ça met en balance des économies d'eau et de l'autre côté, la survie économique de certaines exploitations agricoles. Quand on a des sécheresses qui se... C'est comme la gelée au printemps. Hein. Les arboriculteurs qui ont leur culture qui gèle deux années de suite, la troisième année, ça commence à être difficile sur le plan de la trésorerie. Donc là, c'est pareil. Donc on manipule ça toujours avec beaucoup de précautions. Mais enfin bon, on est quand même face à la réalité des faits. C'est-à-dire que quand les rivières sont quasiment à sec parce qu'il n'y a plus d'eau, on ne peut pas laisser les gens pomper n'importe où, n'importe comment. Quoi. C'est ça qui est compliqué. Voilà. Alors, toutes ces mesures qui sont prises à l'échelle du département, en fait, elles se retrouvent dans l'ensemble des départements de la région PACA. Bon, je ne parle pas du 06 parce qu'ils dépendent du fleuve Var. Et donc là, ils ont leur propre plan d'action sécheresse. Mais enfin, ils ont les mêmes types de mesures puisque les réductions ont été calées au niveau national quasiment. Donc, à l'échelle des 5 bassins qui dépendent du système du Rance-Verdon, on a une coordination qui a été mise en place par le préfet de région. Bon, je passe sur 2022 où ça a un peu cafouillé, mais là, on a donc un système où tous les préfets sont pilotés par le préfet du Bouches-du-Rhône, qui est le préfet de région, mais en même temps, les mesures sont déclinées au niveau de chaque département, sur chaque tronçon de Durance. On peut imaginer que, pour des raisons, une raison ou une autre, la nappe de la Durance en basse Durance soit à un niveau différent de la nappe qui accompagne la Durance en moyenne Durance, donc dans le département 04, par exemple. Voilà. Donc en fonction, donc on ajuste, mais a priori, on essaie d'avoir une vision globale sur la ressource du Rance-Verdon, puisque bon, c'est celle qui alimente, je dirais, le maximum de population sur Marseille et toute la côte d'Azur, quoi. Et ça, c'est pas une nouveauté parce qu'elle existait avant, mais là, on a un système qui est beaucoup plus cadré et qui est beaucoup plus précis et facile à mettre en œuvre. Parce qu'à une époque, on se basait sur la côte de Serponçon. Bon, on s'aperçoit que c'était pas facile à mettre en œuvre. Là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est beaucoup plus clair. Donc, chaque département est autonome, mais les décisions sur la Durance doivent être concertées de façon à ce que... Parce que l'année passée, on avait des mesures sur le 04, par exemple. Il n'y avait pas de mesures dans le Var, alors qu'on dépend de la même ressource. C'est le même système, voilà. Et donc tout ça, c'est en train de s'améliorer. Et enfin, dans le département 04, on est bien rodé, parce que les plans d'action sécheresse, ça fait 12 ou 15 ans que ça existe. Mais il y a des départements qui ont beaucoup plus de mal à passer dans ce type de démarche. Je pense aux Alpes, notamment, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, ils étaient en haut de bassin versant, ils étaient moins touchés par la sécheresse qu'en bas, quoi. Et du coup, mais le fait de travailler de manière collégiale à l'échelle régionale, bon, on débouche quand même sur une concertation amont-aval. Et c'est ça qui est important, puisque c'est ceux d'amont qui laissent passer l'eau, comme ils disent ici. Mon eau, elle est partie en bas. Et en fait, c'est ceux d'en bas qui en consomment le plus, mais avec des enjeux extrêmement forts en termes de population desservie, au-delà des usages.
On fait une deuxième pause, et puis après, donc, ce sera la troisième partie par André Silva, la gestion de la ressource à l'aune du changement climatique, c'est ça ?
Que d'ici tout se suspend. Ouais. Je parle avec toi à défaut d'un ami.
Paysage.
Toi et moi jusqu'à la tombée de la nuit. On va se mélanger. Tu fleuris, fleuris. Je me dilue, dilue dans ton éminence. Je garde mal mes distances. Je sais l'ardeur de tes silences. Et chahuté par le mistral, mon tourment s'en mêle aux rafales.
Sous la pluie.
De sombrer, sauvé par les eaux.
Paysage.
De nuages là-haut m'ont sauvé la peau.
Ouais.
Je vais chavirer dans des pluies diluviennes.
Paysage.
Ce soir je vais noyer mes peines dans les tiennes. On va se mélanger. Tu fleuris, fleuris. Je me dilue, dilue dans ton éminence. Enveloppé par ton averse. Enfin le sanglot se disperse. Le fruit de cette sombre affaire. Dévalant torrent vers la mer.
Sous la pluie, les larmes de rage. Et le paysage se confondent pour laver. Sous la pluie, les larmes de rage. Et le paysage se confondent pour laver.
Et j'en oublie à qui j'en veux. 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 Et j'en oublie à qui j'en veux.
Voilà, retour donc dans Un moment pour la Terre avec France Nature Environnement et pour cette troisième partie d'émission, André Silva.
Oui, bonjour. Alors, moi je proposais de dézoomer un petit peu et de parler plutôt à l'échelle nationale et parler notamment des propositions d'action à mettre en œuvre par le Conseil économique, social et environnemental, ou CESE, et que FNE 04 partage très largement. Donc, le Conseil économique, social et environnemental, ou CESE, qu'est-ce que c'est ? C'est la troisième assemblée qui est citée dans la Constitution avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Elle est bien moins connue, mais elle n'est pas moins importante, au contraire, parce qu'elle sert de lien, en fait, entre les pouvoirs publics et nous, qui sommes les citoyens. Et historiquement, son rôle principal, c'est de conseiller le gouvernement et le Parlement au niveau, dans l'élaboration des politiques publiques et des lois, quoi. Voilà, donc ce CESE, il est composé de diverses commissions, et l'une d'entre elles, la commission environnement, donc, s'est proposée dans l'élaboration d'un avis intitulé « Comment favoriser une gestion durable de l'eau, en quantité, qualité et en partage, en France, face au changement climatique ?» Pour information, les rapporteurs de cet avis sont les messieurs Pascal Guilleneuf et Serge Lecao. Donc, en introduction, je vais resituer un petit peu le contexte à l'échelle nationale. Donc, en France, les effets des dérèglements climatiques sur le cycle de l'eau, ils sont très visibles, de plus en plus visibles. Le réchauffement, on dit qu'il, enfin, d'après le document, on dit qu'il pourrait atteindre 4 degrés d'ici à la fin du siècle. Donc là, on parle plus, on entend beaucoup 1,5. Là, on parle de 4 degrés à la fin du siècle. Lorsqu'on parle d'un réchauffement de 4 degrés, on parle d'un réchauffement général. Localement, ça peut changer. Il y a beaucoup de facteurs qui sont pris en compte à l'échelle locale. La climatologie à l'échelle locale est très différente. Donc on peut rajouter encore quelques degrés à certains endroits. On peut penser notamment aux villes très bétonnées, qui ne respirent pas, bon, et agissant en fait comme un gouffre au final de chaleur. Donc dans cet avis, il y a eu les deux aspects qui sont considérés, quantitatif et qualitatif. Pour le quantitatif, je vais donner quelques chiffres. Selon le Commissariat général au développement durable, la ressource en eau renouvelable a diminué de 14% en France métropolitaine entre les périodes 1990-2001 et 2002-2018. Donc, merci. Donc, je m'explique. La ressource en eau renouvelable, qu'est-ce que c'est ? C'est la quantité d'eau douce qui rentre sur le territoire naturellement. Donc, c'est les cours d'eau présents, c'est à peu près 6% du total, et les précipitations qui sont 94% du total. Donc, il faut rappeler que l'eau, c'est un cycle, elle ne disparaît pas. Il y a seule une partie des précipitations est retenue dans le sol. Le reste va s'évaporer pour ensuite se recondenser et reformer les précipitations. Voilà. Mais là, en gros, la majorité des précipitations retournent à l'atmosphère. Et ça, ce n'est pas considéré dans ce qu'on appelle la quantité d'eau renouvelable. Donc la première raison principale de cette diminution de quantité en eau renouvelable est due à l'augmentation de l'évapotranspiration. L'évapotranspiration, c'est très simple. C'est le cumul de l'évaporation de l'eau du sol et de la transpiration des plantes qui transpirent comme nous. En fait, c'est équivalent. Et donc ça, ces deux phénomènes forment conjointement l'évapotranspiration. Donc s'il y a plus d'évapotranspiration, eh ben, on a moins d'eau qui reste dans le sol, qui part dans l'atmosphère. Donc on a moins d'eau disponible. La deuxième raison, c'est la moindre précipitation en automne, qui est normalement la saison de recharge de la nappe, des nappes phréatiques. Donc si on a moins d'eau dans les nappes, c'est plus compliqué derrière. Maintenant, pour ce qui est de l'aspect qualitatif, on sait depuis longtemps que les activités humaines ont entraîné une dégradation de la qualité de l'eau, avec notamment la persistance de pollutions qui proviennent d'une multitude de sources qui sont très variées, dans le temps et l'espace. C'est ce qu'on appelle une pollution diffuse, qui est indistinguée des pollutions qui sont ponctuelles, accidentelles, par exemple un camion qui déverse, je sais pas, ses eaux noires dans un lac. Voilà, c'est ça, on sait bien faire, c'est situé, c'est court dans le temps, donc on sait traiter. Les pollutions diffuses, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est un exemple de pollution diffuse. On peut penser à l'utilisation intensive de nitrates et de pesticides de l'agriculture. C'est d'année en année que ça se produit et c'est sur tout le territoire. Donc ça affecte grandement la qualité des écosystèmes et des eaux. Pour donner encore quelques chiffres, il y a 43% des eaux de surface, donc c'est l'ensemble des eaux en contact avec l'atmosphère, on ne parle pas des nappes, qui sont affectées par des pollutions diffuses. 43%. Pour les eaux souterraines, le chiffre, c'est 34%, donc c'est un tiers. Voilà. Donc, tout ça, c'est toujours en France métropolitaine. On ne parle pas encore des dom-toms. Donc ces problèmes de qualité de l'eau, ils vont être accentués par le changement climatique, du fait d'une moindre dilution. Si je prends, pour une même quantité de sel, par exemple, 100 grammes de sel, on va dire, que je verse dans 10 litres d'eau, je vous la donne à boire, vous aurez l'impression qu'elle est moins salée que si je mets la même quantité dans un litre d'eau. Ben, pour les polluants, c'est pareil. Si on a moins d'eau, la concentration en polluants sera plus grande, donc on est exposé à de plus grands dangers. Les écosystèmes, mais aussi nous, les humains. Voilà. Donc dans cet avis, le CESE propose des préconisations. Il en propose 23, je ne vais pas tous les citer, bien sûr, par souci de temps et dynamisme. Mais voilà, il y en a certains qui seront plus parlants que d'autres actuellement. Par exemple, la préconisation numéro 2, qui appelle à objectiver le débat sur les réservoirs ou stockages, et préconise que soit rendu public les volumes totaux prélevés et les stratégies d'irrigation agricole. En gros, que tout le monde ait accès à ces informations. Il préconise qu'il soit interdit de subventionner par des fonds publics tout projet de stockage de grande taille, parfois appelé méga-bassine, alimenté par pompage dans la nappe phréatique, donc effectivement, s'il n'y a plus d'eau, bah, ça rend la chose compliquée, qui permettent un accaparement de la ressource en eau et entraîne une dégradation donc, de l'environnement, de la biodiversité et un risque pour la santé humaine. La préconisation numéro 3 dit que les industriels, demande que les industriels soient rendus responsables de l'ensemble de leur traitement, de leur rejet d'exploitation, par exemple en recyclant les eaux usées, et de le plus possible fonctionner en circuit court fermé. Tout en appelant à la transparence en termes de quantité et qualité. Parce qu'il faut savoir que dans le secteur industriel, seuls les rejets des installations classées sont connus, recensés et gérés. Donc le CESE appelle à ce que ça soit généralisé à toutes les installations et plus seulement aux installations classées. Ensuite, préconisation numéro 4, anticiper les tensions sur l'eau en mettant en place une irrigation de résilience économe et adaptée à chaque territoire et visant prioritairement à satisfaire les besoins d'une alimentation saine et durable. Ça, c'est un peu plus évident que les autres. Et le CESE avait déjà préconisé ça en 2013, réaliser une véritable transition écologique et systémique de l'agriculture qui intègre toute la filière agroalimentaire et de mettre en place un accompagnement de tous ces acteurs. Parce que c'est bien, enfin, on peut dire, oui, il faut que tu changes, mais derrière, il faut de l'argent, il faut plein de choses, il faut des moyens. Donc, voilà. Ensuite, peut-être des préconisations plus parlantes au niveau de nous, consommateurs. Le CESE appelle à favoriser la sobriété en lançant une campagne contre les gaspillages dans tous les usages de l'eau, portée par des politiques publiques de sensibilisation, d'éducation et d'incitation. Et il préconise d'insister sur des baisses de consommation, parce que la baisse de prélèvement ne va pas suffire. Il faut une baisse il faut un changement de comportement. Voilà. Et ainsi agir sur le respect des quotas de prélèvement. Et enfin, une dernière, le CESE recommande de renforcer le partage de l'eau entre les usages humains et la nature, en premièrement tenant compte des débits minimums biologiques, donc c'est le débit minimum nécessaire à laisser à l'environnement pour garantir la vie, la circulation, la reproduction des espèces qui vivent dans les cours d'eau. En deuxièmement, diminuant le réchauffement des eaux de surface, parce que dans les usages industriels, il y a des pratiques qui réchauffent les eaux. On pense aux barrages où l'eau stagne, du coup chauffe plus rapidement. Par exemple, dans le nucléaire, on a besoin de refroidir les circuits et l'eau en sortie est plus chaude. Bon, voilà. Et enfin, en restaurant la perméabilité des sols et l'écoulement lent, notamment grâce aux zones humides. Pour ça, le CESE recommande de s'appuyer sur des solutions fondées sur la nature. Donc, en conclusion, ce sont des, les changements qui doivent être faits doivent être globaux. C'est pas des décisions juste politiques, c'est tout le monde autour de la table. Et on doit changer de comportement, de consommation. Enfin, il faut respecter les quotas qui sont indiqués, les surveiller. Mais voilà, tout ça, ça demande des moyens, mais c'est quelque chose qui doit se faire de façon collégiale.
Bien, merci pour toutes ces informations. Et puis, évidemment, chacun doit faire des efforts. Ce n'est pas que les industries, c'est aussi les particuliers. Est-ce qu'il y a des rendez-vous à donner avec France Nature Environnement dans l'actualité à venir?
Eh bien, du coup, on sera présent à la fête de l'As, le 8 mai à Bradas et le 28 mai à Moriez.
D'accord.
C'est les principaux événements à venir.
Je vous remercie. Tout est dit?
Merci à vous.
Donc, on retrouvera cette émission sur notre site dans le courant de la journée sur www.fréquencemistral.com. Merci à vous deux et puis au mois prochain peut-être.
Merci.
Si c'est vous qui revenez.
Oui.
Voilà.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Très bonne journée. Au revoir.